France Info, l'un des vecteurs de la radicalisation, c'est sans conteste Internet. L'un des assassins du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray avait expliqué son plan avant de passer à l'acte sur une application qui s'appelle Telegram. Bonjour Jean-Marc Manac.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des questions de surveillance de la vie privée et d'Internet en général. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette application Telegram ?
C'est une application qui a été créée en 2013, qui est utilisé par 100 millions de personnes dans le monde. Il y a eu un papier assez intéressant dans l'Express il n'y a pas très longtemps qui révélait que de plus en plus de responsables politiques français utilisaient Telegram pour se protéger des écoutes. Et Telegram permet de faire plusieurs choses. Un, de créer ce qu'ils appellent des channels publics. Donc c'est utilisé notamment par l'agence de presse de l'État islamique pour revendiquer des attentats. Ça permet également d'avoir des conversations de groupe. Donc comme on l'a eu dans le cas d'Adel Kermiche, qui avait créé un groupe, et ça permet également des chats secrets, c'est-à-dire des messages chiffrés qui sont autodestructibles au bout d'un temps défini et qui sont chiffrés au niveau du téléphone de telle sorte que même interceptés, on ne puisse pas les déchiffrer.
Cette application, elle a été créée par un Russe qui s'appelle Paul Dourov. Lui, il dit le fait que les djihadistes utilisent Telegram, c'est pas le plus important. Pour lui, le plus important, c'est le droit à la confidentialité. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour protéger justement la confidentialité?
Bah, en l'espèce, je vous disais tout à l'heure que ça a été utilisé par 100 millions de personnes.
Donc, il n'y a pas évidemment 100 millions de terroristes qui l'utilisent.
Bah, voilà. La majeure partie, la quasi-totalité, c'est pas la majeure partie, c'est la quasi-totalité des utilisateurs de Telegram sont des internautes, des gens, des citoyens qui veulent s'en servir parce que on a eu les révélations Snowden, c'est sûr qu'il y a un avant et un après Snowden, et depuis Snowden, de plus en plus d'internautes veulent pouvoir protéger leur vie privée et donc chiffrer leur communication. Maintenant, une infime minorité des utilisateurs de Telegram sont effectivement proches de l'État islamique ou se revendiquent de l'État islamique, mais c'est la portion congrue.
Le problème, c'est que cette portion-là, elle entraîne des attentats terribles, notamment en France. Où est-ce qu'on peut mettre le curseur, justement ? Parce que, vous le dites, c'est assez nécessaire, finalement, d'avoir comme ça des zones de confidentialité sur Internet.
C'est recommandé par les autorités dans un grand nombre de pays, par l'ANSSI en France, qui est l'agence en charge de la cyberdéfense et qui conseille notamment à ceux qui voyagent à l'étranger pour des voyages d'affaires notamment, de chiffrer leurs téléphones, de chiffrer leurs ordinateurs pour éviter des cas d'espionnage politique ou d'espionnage économique. C'est clair qu'aujourd'hui, en matière d'intégrité, en matière d'authentification, en matière de sécurité informatique, on a besoin d'outils pour protéger nos données. Ce qui a le plus de valeur dans un téléphone portable ou dans un ordinateur, c'est pas le téléphone ou l'ordinateur, ce sont les données personnelles ou les données d'entreprise qui sont à l'intérieur et qu'il convient de protéger. Maintenant, jusqu'où peut-on aller ? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a ce débat-là récurrent autour de l'utilisation d'Internet et de messageries plus ou moins sécurisées par les terroristes depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo. Ce que je sais, c'est qu'à Charlie Hebdo, ils avaient aussi loué des voitures. On n'a jamais eu de débat sur la pertinence, faut-il interdire de louer des voitures ? Pourtant, les voitures ont autant, si ce n'est plus, servi, notamment lors des attentats c'était pas Charlie Hebdo, c'était le Bataclan. Que Telegram. Rappelez-vous, au Bataclan, on a trouvé un téléphone portable devant le Bataclan. Dans le téléphone portable, il y avait un SMS. Ils avaient communiqué par SMS. On n'a pas de preuve qu'ils avaient communiqué à l'époque par Telegram. Par contre, on sait qu'ils avaient loué des voitures. Donc moi, je pense que ces débats-là sur jusqu'où faut-il aller par rapport à Telegram ou par rapport aux applications, c'est un problème qui est tout aussi absurde que le débat faut-il interdire de louer des voitures. Les terroristes sont des internautes comme les autres, sont des citoyens comme les autres. Ils utilisent des voitures, ils utilisent des chambres d'hôtel, ils achètent des pizzas, ils utilisent des téléphones portables.
Jean-Marc Manac, oui, c'est peut-être pas jusqu'où peut-on aller, c'est peut-être la question également des contrôles, des contrôles d'Internet. On était tout à l'heure en ligne avec Olivier Falorni, qui est député d'hiver gauche de Charente-Maritime. Il est membre de la commission d'enquête parlementaire aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Pour lui, les géants d'Internet sont aussi responsables de ce qui nous arrive.
Les géants du net sont, pour moi, des complices tacites, des collaborateurs passifs de Daesh. Parce que ça suffit d'entendre dire à chaque attentat, tel jeune s'est radicalisé sur Internet, tel réseau a organisé son attentat par le biais d'applications. On a d'ailleurs le sentiment qu'un certain nombre d'applications sont devenues des califats numériques. Donc je crois qu'il faut mettre un terme à tout ça. Et la collaboration passive des géants du net, pour moi, est insupportable parce que, d'ailleurs, elle repose sur des raisons bassement mercantiles. Et je crois qu'aujourd'hui, ils doivent prendre leurs responsabilités pour ne pas porter demain la complicité et la responsabilité de nouveaux attentats. Mais
Jean-Marc Manac, Olivier Falorni, on vient de l'entendre, il parle de califat du numérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ?
Excusez-moi, mais c'est populiste comme expression. Califat numérique, Google et Facebook seraient et Twitter seraient des califats numériques parce qu'il y a quelques dizaines, voire quelques centaines, peut-être quelques milliers de terroristes ou de gens qui se revendiquent de l'État islamique. Ça voudrait dire que les centaines de millions, voire le milliard d'utilisateurs de Facebook vivraient dans un califat numérique. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je sais, c'est que est-ce que M. Falorni dirait la même chose de Toyota, dont on sait qu'il y a énormément de voitures en Syrie qui sont des Toyota? Est-ce qu'elle dirait la même chose des compagnies aériennes qui sont utilisées par les Français qui vont en Turquie pour aller dans l'État islamique? Est-ce qu'ils diraient la même chose des fabricants de téléphones Samsung, Google, Apple? Parce que c'est des téléphones, c'est fabriqué, c'est du matériel, c'est pas que des logiciels. Moi, ce que je peux répondre, en tout cas par rapport à ce genre d'arguments qui, je répète, sont clairement populistes, c'est que Google, Facebook et Twitter payent des gens, des dizaines, peut-être des centaines, je ne sais pas, de gens, pour répondre aux demandes de signalement, aux demandes d'effacement de contenu qui sont faites, que ce soit par les autorités, par la police ou par des internautes, parce qu'on a la possibilité de dénoncer à Facebook, Google et Twitter des contenus qui relèveraient de la propagande terroriste, et que, moi, à contrario, je n'ai jamais entendu dire que les loueurs de voitures ou les compagnies aériennes payaient des centaines ou des milliers de personnes pour s'assurer que les gens qui louent des bagnoles ou qui montent dans des avions essayent de rejoindre l'État islamique. Aujourd'hui, on a un problème, c'est pas seulement aujourd'hui, ça date depuis le début de l'année 2000, on essaye de porter la responsabilité juridique auprès d'entreprises privées. Jusqu'à preuve du contraire, dans un état de droit, normalement tout acte de censure, ça doit être validé par un juge. Aujourd'hui, on a réussi à faire admettre que Google, Facebook et Twitter puissent censurer des contenus quand bien même il n'y a pas eu de décision de justice. Donc on a des entreprises privées de droit américaines qui se substituent à la justice française. Donc
c'est d'ailleurs aussi un gros problème, le fait que Internet, évidemment, est une zone qui n'a pas de frontières, qui n'a pas vraiment de territoire. Et donc c'est compliqué ensuite de pouvoir poursuivre quand on est un juge français, parce qu'on ne sait pas sur quel territoire il faut se baser finalement.
Oui, sauf que la loi française s'applique sur Internet et quand il y a une réquisition judiciaire, les entreprises américaines se doivent d'y répondre.
Alors, mais elles se cachent derrière le fait qu'elles sont américaines et non pas françaises.
Elles ne se cachent pas derrière le fait. Elles sont de fait des sociétés de droit américaines. Donc elles doivent répondre au droit américain. Et à partir de là, quand il y a une commission rogatoire internationale, un certain nombre de fois, ils vont se conformer à la demande. Et certaines autres fois, ils vont dire non parce que ça ne contrevient pas ou vous n'apportez pas la preuve qu'effectivement c'est un comportement délictueux. A contrario, ce qu'on constate, c'est que régulièrement, il y a des gens qui se battent contre l'État islamique ou qui documentent, il y a des journalistes ou des chercheurs qui documentent le travail de l'État islamique et dont les comptes Twitter ou Facebook sont censurés par Twitter et par Facebook parce qu'ils ont été dénoncés à tort comme étant des djihadistes. Donc là, on voit bien les effets pervers d'une censure privée. Quand on confie des pouvoirs de censure, des pouvoirs de justice à des acteurs privés, a fortiori qui ne relèvent pas de la loi sur le territoire national, ça a des effets de bord. Donc je peux comprendre que dans certains cas, on puisse censurer des vidéos d'égorgement, des vidéos de meurtre qui sont évidemment, où on voit effectivement que ce sont des contenus terroristes, mais ce que je vois également, c'est que de plus en plus de gens qui ne sont pas du tout des terroristes se retrouvent censurés. Donc le problème est beaucoup plus complexe.
Il y a des dérives, évidemment.
Le problème de soi-disant califat numérique.
Merci beaucoup Jean-Marc Manac. Merci d'avoir été avec nous sur France Info. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des questions de surveillance, auteur notamment de Grandes oreilles et bras cassés, une enquête en bande dessinée qui a été dessinée par Nico Bi.
France Info.
14h-17h.
Laurent Sénéchal.